Bonjour, si vous voulez.
Recording is on.
Bonjour, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse au chapitre 14, les versets 14 à 20. Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 20. Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un d'assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main, une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et lui dit, « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faux sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuvée, dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur l'espace de 1600 stades. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre étude qu'on avait débutée. On est rendu au chapitre... on finit le chapitre 14 aujourd'hui. Alors, le titre que j'ai donné à cette leçon aujourd'hui est « Le commencement de la fin du monde, la moisson et la vendange ». Alors, on va regarder trois principales idées et qu'on va développer. Et la première est celle que la fin, on parle de la fin du monde, la fin est divinement commandée dans le verset 14. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est le rassemblement final des élus est complété, les versets 15 et 16. Et la troisième idée qu'on va regarder, c'est celle du jugement final des méchants qui est concrétisé, les versets 17 à 20. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre temps ensemble. Lors notre Dieu, notre Père, nous venons à ta sainte présence, nous t'adorons car tu es un Dieu glorieux, un Dieu plein de grâce, d'amour, de miséricorde. Alors, Seigneur, sois avec nous, que ton Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence à la compréhension du texte que nous allons étudier aujourd'hui. Et permets, Seigneur, qu'on en saisisse les principes que tu veux qu'on retienne et qu'on applique dans nos vies de tous les jours. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on se doit de faire un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à l'heure actuelle dans les chapitres 13 et 14. Et on se souvient qu'on avait mentionné déjà dans notre leçon précédente que les chapitres 13 et 14 forment un tout indissociable. Alors, le chapitre 13 nous raconte l'installation du royaume de l'Antichrist au moyen de deux bêtes. Une de nature politique qui veut le gouvernement mondial et l'autre de nature religieuse et philosophique qui veut la religion mondiale. Alors, bien sûr, dans ce chapitre-là, la description est effrayante et semble décourageant. Tout cela nous semble bien décourageant puisqu'il est mentionné dans le texte que les saints seront vaincus. Alors, c'est vraiment le point de vue des ennemis de Dieu. Alors, quand on regarde, on lit attentivement le chapitre, on se rend compte que c'est leur point de vue de l'installation du gouvernement ou du royaume de l'Antichrist. Alors, bien entendu, quand les enfants de Dieu lisent une chose semblable, ils semblent sans espoir. Cependant, le Seigneur tient à leur rappeler que tous les élus seront finalement présents au ciel et savoureront ultimement leur victoire. On rappelle également le chapitre 14 qui, lui, nous décrit le même événement, cependant avec le point de vue de Dieu. Alors le Seigneur veut que son peuple sache avec certitude que le royaume de l'Antichrist est voué à la destruction absolue et totale. Dieu rassure les siens qui sont l'Église militante, dans le fond, tous ceux qui sont sur la terre, qui seront sur la terre à l'époque où ces choses-là vont se dérouler. C'est l'Église militante, parce que l'Église qui se bat contre le péché, contre le malin, contre leur propre nature pécheresse qui demeure encore en eux. Alors, c'est l'Église militante qui est sur la terre, et le Seigneur veut leur rappeler que l'agneau, qui est Jésus-Christ, règne dans la gloire avec l'Église triomphante. On avait mentionné que l'Église triomphante, c'était les saints qui sont décédés et qui sont déjà entrés dans la présence de Dieu pour l'éternité. Donc, l'Église triomphante, le Seigneur veut leur montrer qu'elle est déjà victorieuse et que cette Église triomphante-là, elle jubile, on pourrait dire, dans les chants, dans les louanges et dans la félicité éternelle. Et le Seigneur veut absolument que les siens remarquent une chose, c'est que tous les élus, sans exception, sont présents. Alors c'est très important pour leur rassurer ces choses-là. Dans les versets 14 à 20, on est dans les versets d'aujourd'hui, là, le Seigneur nous montre la fin du monde. Alors, celle-ci va comporter un double aspect. D'abord, le rassemblement final et complet des élus, suivi du jugement final des méchants et leur destinée éternelle. Alors, on va prendre le premier point, qui est « La fin est divinement commandée », dans le verset 14. On relit le verset. Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main, une faux tranchante. Alors ici, bien entendu, si on prend le temps d'analyser le verset et le contexte, et on s'aperçoit que le verset 14 nous indique d'une façon très claire que quand la personne qui est assise sur le nuage, sur la nuée, c'est vraiment le Fils de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alors, on voit que c'est un commandement qui est glorieux. Comment ça s'explique, comment ça s'exprime, comment ça s'extériorise, comment ça se manifeste dans le texte, c'est qu'on voit qu'il y avait une nuée blanche. Alors, il est clair que la nuée mentionnée ici n'est pas du domaine de la météorologie. Il ne s'agit pas d'un nuage qu'on voit quand on lève les yeux vers le ciel lorsqu'il y a des nuages. On ne parle pas de ces nuages-là ici. On parle d'un nuage, je pense, plus de nature symbolique. Alors, souvent, les Écritures vont utiliser l'image de la nuée blanche pour parler de la présence glorieuse du Seigneur, ou ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament la Shekina. Alors, quand le tabernacle était installé dans le désert, et quand tout a été fait selon ce que le Seigneur avait prescrit, la Shekina, ou la présence de Dieu, s'était manifestée. Et souvent, les nuages blancs dans les Écritures font référence à justement la Shekina, ou la présence glorieuse du Seigneur. Bien sûr, la blancheur, en général, dans les Écritures, font souvent référence à l'absolue sainteté de Dieu. On va aller dans le Nouveau Testament, au chapitre 24 de Matthieu, et au verset 30. On va voir que dans ce chapitre-là, on utilise encore une fois l'image des nuées du ciel. Alors, on relit le verset 30 du chapitre 24. « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. » On voit ici vraiment l'idée qui rattache les deux passages. On a aussi dans Actes chapitre 10, verset 42, et qui nous dit « Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. » Et on sait que dans Actes 10, le contexte, c'est que c'est Dieu le Père qui établit Jésus-Christ, juge des vivants et des morts. Un ou deux autres passages du Nouveau Testament où on parle de la nuée, c'est important de saisir ici que c'est vraiment pas un phénomène météorologique, le nuage du ciel, comme nous, on est habitué de le voir. Alors, on a dans Matthieu 17 aussi, ou au verset 5, c'est dans le passage de la Transfiguration. Alors, comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. On termine aussi avec le verset 9 du chapitre 1 du livre des Actes, 9 à 11 en fait. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs. Et ils leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé avec vous dans le ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Alors, on est en train d'étudier un passage où on parle que le Seigneur va revenir. Et ici, dans Acte 1, on voit le passage où on nous dit qu'il va revenir de la même manière dont il est parti. Alors, c'est intéressant de faire le lien entre les deux passages. Donc, c'est un commandement qui est donné, mais c'est un commandement qui est glorieux, le nuage blanc. C'est un commandement aussi qui est donné, qui provient d'une ressemblance humaine. Parce que quand on lit le texte, et ça dit « Et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme. » Alors, on peut se poser la question, comment ça se fait que l'apôtre Jean, qui avait vécu quotidiennement avec le Christ pendant 3 ans sur la terre, semble ici ne pas... il semble faire une distinction entre le Christ glorifié. Bien sûr, s'il a connu le Christ sur la terre, c'était le Christ qu'on pourrait dire voilé, parce que voilé de sa chair humaine. Parce que ça les a pris tout le temps que les apôtres ont connu Jésus sur la terre, ça les a pris un temps fou avant de reconnaître qui il était. Ça a été même après sa résurrection, avant que ça s'est devenu clair dans leur esprit. Alors, le Seigneur Jésus que Jean avait connu sur la terre et le Seigneur Jésus qu'il voit maintenant dans une vision est très différent. C'est pour ça qu'il dit qu'il ressemblait au Fils de l'homme. Alors, sans doute, dans son point de vue à lui, il comprenait que c'était le même personnage, mais vraiment un personnage dans deux états complètement différents. Un qui était lorsqu'il était sa gloire était voilée lorsqu'il était sur la terre, et l'autre dans sa vision où il voit Jésus-Christ dans son exaltation, où il comprend un peu plus sa réelle personne et qui il est et quelle est sa puissance et ce qu'il vient faire aussi. Alors, bien sûr, certains commentateurs ont soutenu l'idée que la personne qui parle n'est pas Jésus-Christ à cause du mot « ressemblait ». Nous croyons qu'il s'agit d'une erreur. Nous devons nous rappeler que l'apôtre Jean avait bien connu la personne de Jésus dans sa nature humaine. Cependant, Jésus voit ici Jésus-Christ glorifié et exalté. Bien sûr, un autre mot qui est mentionné, c'est celui de « fils de l'homme ». Alors, l'expression « fils de l'homme » avait déjà été utilisée par Jean pour identifier la personne de Jésus-Christ. Si on revient, par exemple, dans l'introduction qu'on avait faite au chapitre 1, verset 13, ça disait « Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. » Alors, on voit ici que Jean l'avait déjà identifié, le Fils de l'homme, comme étant la personne de Jésus-Christ. Et il y a une remarque importante qui est faite par le pasteur Joel Bickey, qui est un commentateur, pasteur et commentateur du livre de l'Apocalypse. Il nous fait la remarque suivante. Il dit que l'expression « fils de l'homme » elle est utilisée à plus de 80 reprises dans les quatre évangiles. Et c'est toujours Jésus, le Christ lui-même, qui s'approprie ce titre-là en parlant de lui-même. Et bien sûr, je pense qu'on ne peut pas regarder le passage qu'on étudie aujourd'hui sans faire aussi un parallèle avec un autre passage de l'Ancien Testament qui nous parle du Fils de l'homme aussi. C'est un titre qui est attribué à Jésus-Christ. Alors, Daniel, au chapitre 7, les versets 13 et 14. « Je regardais dans ses visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera point détruit. » Alors on peut très bien ici faire les parallèles entre l'expression « fils de l'homme » qui vient sur les nuées des cieux avec le passage qu'on étudie aujourd'hui. Donc c'est vraiment un commandement qui provient d'une ressemblance humaine, qui était notre deuxième point. Le troisième point, c'est qu'un commandement qu'on pourrait qualifier de royal, parce que ça nous dit que ayant sur sa tête une couronne d'or. Alors ici, je voudrais faire la remarque du pasteur Joel Bickey. Sa remarque est très pertinente et très appropriée quant à la signification de la couronne d'or. Alors voici, je le cite. Il dit, Jean nous dit que le Fils de l'homme revient sur terre avec quelque chose sur sa tête, une couronne d'or. Il y a deux mots pour couronne en grec, diadéma et stéphanos. Le mot diadéma, d'où nous tirons le mot diadème, est la couronne portée par les rois et les dirigeants de la terre. Il symbolise le pouvoir donné par Dieu pour régner parmi les hommes. Le mot ici utilisé dans l'Apocalypse 14:14 est Stéphanos, qui est la couronne du vainqueur, comme celle qui était donnée au vainqueur lors des Jeux olympiques. Donc, l'homme qui a surpassé ses concurrents dans tous les événements a reçu une couronne de branches de laurier à porter sur leur tête et ils ont été invités à s'asseoir à côté de l'empereur dans le stade. Alors, c'était un immense honneur pour un athlète de l'époque qui gagnait d'être assis à côté de l'empereur. Donc, Stéphanos, c'est vraiment l'idée d'une couronne, mais pour un vainqueur. Donc, c'est pas que le Seigneur avait pas l'autre, le diadème, oui, mais ici, le mot est échangé dans le but, je pense, d'exprimer, de faire passer l'idée, de véhiculer l'idée de vainqueur. Alors, je continue la citation. « Quand Jean voit le Fils de l'homme venant sur les nuées de gloire, il voit le Christ, ne portant pas de diadème, mais une couronne de vainqueur. Maintenant, ne vous méprenez pas. Le diadème lui appartient également. Mais ce n'est pas ce que Jean le voit porter ici. Il voit Christ avec une couronne de victoire sur sa tête, et elle est faite d'or impérissable. Pas de branche de laurier. Il vient comme celui qui a vaincu à la fois le péché, la mort et Satan. Il vient comme celui qui a réussi dans tout ce qu'il s'est efforcé d'atteindre pour nous. Il vient comme l'unique qui a terminé le travail qu'il est venu faire. Il vient comme l'unique qui a triomphé sur la croix de toutes les principautés et puissances. Le Christ est le vainqueur. Alors, j'avais trouvé cette citation-là dans son e-book qui s'appelle Revelation de Joel Bickey. Alors, j'ai tout donné la source d'où j'ai pris cette citation-là dans les notes que ceux qui les auront téléchargés vont pouvoir les avoir. Ceux qui les ont déjà en main, bien, vous allez pouvoir vérifier ces choses-là. Donc, c'est vraiment une couronne d'or, et c'est une couronne royale qui est le symbole de la domination souveraine et de sa victoire. Jésus est le grand roi qui vient établir le droit et la justice sur la terre. Quatrième caractéristique du commandement, c'est un commandement avec le droit absolu de vie ou de mort. Et ça dit qu'il avait en sa main une faux tranchant. On a tous déjà entendu l'expression « la grande faucheuse » en parlant de la mort. Alors ici, la faux, c'est un instrument agricole manuel qui servait à couper l'herbe ou les céréales lors des récoltes. Et là, il est en train de dire que non seulement il y a la couronne de vainqueur, mais il a aussi la faux tranchante dans les mains. Donc, vraiment le symbole qu'il s'en vient récolter la moisson des élus. On est rendu au deuxième point. On va regarder maintenant le deuxième point. Dans les versets 15 et 16, on les relit. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. On se souvient dans les Écritures, dans les Évangiles, que le Seigneur avait déjà affirmé qu'il bâtirait son Église. Alors, lorsqu'on construit, peu importe ce qu'on construit, il arrive un moment où ce qu'on a entrepris est terminé. Alors, le texte nous dit que la moisson est mûre et qu'elle est prête pour être récoltée. On pourrait faire un parallèle avec un autre passage des Écritures où la Bible nous parle d'une construction que le Seigneur est en train de faire, mais qui est composée de pierres vivantes. Donc le Seigneur se compare lui-même à la base, la pierre angulaire, et toutes les autres pierres qui sont ajoutées pour construire, ce sont ce que les Écritures appellent des pierres vivantes. Autrement dit, tous les croyants de la terre, de toutes les époques, forment la bâtisse spirituelle que le Seigneur est en train de construire. Et si chaque croyant est une pierre, ou appelez-la la pierre ou la brique, il vient un temps que quand c'est terminé, c'est quand la dernière est placée, c'est terminé. Alors, le Seigneur avait utilisé, on va regarder quelques versets qui nous illustrent ces choses-là dans le Nouveau Testament. On va commencer par le verset 18 du chapitre 16 de Matthieu. Alors, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Alors il dit, le Seigneur il dit, je, c'est lui qui va construire, il va construire son église, il va la bâtir son église. Bien entendu, si on utilise l'image que chaque croyant est une pierre, éventuellement la bâtisse va être terminée. Et je pense que là on est rendu dans l'Apocalypse au point où il est en train de faire le rassemblement des derniers élus. Et les dernières pierres sont placées, et là, c'est terminé pour ce qui est des élus de Dieu. Et on va aller regarder un autre passage dans le Nouveau Testament où, justement, on utilise l'expression « pierre vivante » pour parler de tous les croyants, des véritables croyants selon les Écritures. Le passage, c'est 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 4 et 5. En vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Important de voir ici que on dit que Jésus est la pierre vivante rejetée des hommes et choisie de Dieu et qu'elle est précieuse. Donc c'est un peu comme on pourrait dire le solage. Et ensuite il nous dit que tous les autres croyants, c'est le Seigneur qui bâtit son Église, mais chaque croyant est une pierre vivante. Il dit vous aussi comme des pierres vivantes vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle. Alors, c'est très important de faire les liens entre ces idées-là. Et on a aussi, bien entendu, le passage de Matthieu, chapitre 24. On va regarder deux passages. On va regarder le verset 14 et aussi les versets 21 à 31 qui vont venir faire un lien avec le passage qu'on étudie aujourd'hui. Alors, Matthieu 24, verset 14, et ça dit... Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. Et ensuite, on va reprendre à partir du verset 21 jusqu'au verset 31. Et là, le Seigneur nous parle des difficultés que les croyants vont avoir dans les temps de la fin. Car il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en aura point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « le voici dans le désert, n'y allez point », le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort? Là s'assembleront les aigles. Et aussitôt, après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout jusqu'à l'autre bout. Alors, il y a plusieurs idées là-dedans. On parle de l'évangile qui va être prêché, on parle d'une grande affliction, on parle de l'avènement du Fils de l'homme. On parle du Fils de l'homme qui revient dans une grande gloire sur les nuées du ciel, comme dans le passage qu'on étudie aujourd'hui. Et il dit aussi qu'il va envoyer ses anges avec lui. Et les anges vont rassembler les élus des quatre vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Autrement dit, c'est l'heure, il est en train de parler de l'heure de la récolte, l'heure de la moisson. On a aussi, dans le verset 17 de Luc, de l'évangile de Luc, au chapitre 3, ça dit, en parlant, Jean-Baptiste ici parle de Jésus-Christ, il dit, « Il a son van dans ses mains, il nettoiera parfaitement son air et il amassera le froment dans son grenier, mais il brûlera entièrement la paille au feu qui ne s'éteint point. » Alors, je pense ici qu'on est en train de dire « ramassera le froment ou le blé ». Alors, tout ce que le Seigneur considère qu'il y a de la valeur, il va le garder pour l'emmener dans son grenier, dans le ciel, et il va brûler entièrement, que ça dit, la paille au feu qui ne s'éteint point. Je pense que ça fait référence, bien entendu, à l'enfer. Alors, le pasteur et commentateur Herman Oxema identifie le temps dont on parle ici comme étant celui de la fin. Et il dit quelque chose d'important. Il dit que c'est une récolte double. Et il veut nous faire remarquer que cette récolte double-là se fait dans un certain ordre. Autrement dit, ça commence par quelque chose et ça termine par une autre chose. Et par quoi ça commence? Ça commence par le rassemblement des élus. Autrement dit, c'est le temps de la moisson. Le Seigneur ramasse son blé et en même temps, après que les élus sont rassemblés, enlevés et emmenés au ciel, là va se dérouler le jugement final des méchants. Tous leurs actes vont être regardés, examinés, tout va être rendu public. Tout, y a personne qui va contester le Seigneur. Alors voici ce qu'il dit, le pasteur Herman Oxema. Il dit, tout d'abord, je dirais que notre texte nous donne les raisons de croire que les élus de Dieu, l'Église du Christ, seront enlevés juste avant la fin. Je ne parle pas du point de vue du temps, mais plutôt celui de l'ordre. Et on continue ça, c'est à la page 509, un peu plus loin, il nous dit, à la page 510, « Et par conséquent, nous pouvons considérer comme établi que dans notre texte, la distinction est faite et que dans la première vision, nous avons une image de l'enlèvement du peuple de Dieu de la terre. Dans la seconde, un symbole de la fin de la puissance méchante de l'Antichrist. » Alors, il voit véritablement, il dit que le texte ne mentionne pas le temps qu'il peut avoir entre le moment où le Seigneur enlève les siens, l'Église est terminée, les élus, tout est enlevé, et après ça, c'est vraiment le temps du jugement de ceux qui vont demeurer sur la terre. Qui va demeurer sur la terre à ce moment-là? C'est ceux, les professeurs, ceux qui disent être des croyants, mais qui vont être des apostats, qui vont l'avoir démontré par une multitude de moyens, donc des faux croyants, et aussi tous les rebelles païens, incrédules, qui est là le Seigneur. Donc, ce que Oxema veut qu'on remarque, c'est l'ordre. Il commence d'abord par les élus, ensuite on passe au jugement des incroyants. Très important de réaliser cela. Alors, on peut constater que cette façon d'opérer dans les Écritures n'est pas nouvelle. Il y a eu des jugements précédents qui ont été décrits dans les Saintes Écritures où le Seigneur utilise à peu près la même façon d'agir. Par exemple, la même façon d'agir a été utilisée lors du déluge et aussi lors du jugement de Sodome et Gomorre. Lors du déluge, le Seigneur a d'abord, ce qu'on pourrait dire, enlevé les siens de la terre dans l'arche avant de procéder à son jugement. Et c'est exactement la même idée qui est exprimée lors du jugement de Sodome et Gomorre. Le Seigneur envoie un ange pour avertir Lot et le Seigneur permet que l'ange va attendre jusqu'à ce que Lot soit sorti avec ses deux filles. On sait que son épouse avait sorti, mais comme elle avait désobéi, elle avait été échangée en statut de seule. Alors c'est important de réaliser ici que la façon que le Seigneur procède lorsque la fin des temps va arriver. Donc, il va y avoir un ordre. D'abord, le rassemblement des élus, l'enlèvement des élus. Ensuite, suivi du jugement des inconvertis et des personnes des rebelles ou de ceux qui vont prétendre être des croyants, mais qui vont être des faux croyants, qui, eux, vont avoir demeuré sur la terre parce que ce ne seront pas de véritables croyants. Alors, on voit que ces choses-là, sont arrivés aussi dans d'autres passages des Écritures, cette façon de procéder-là. Et on fort probablement qu'on pourrait trouver d'autres exemples, mais ces deux-là vont suffire. On va regarder maintenant le troisième point, qui va du verset 17 à 20. Alors, c'est vraiment le jugement final des méchants, qui est concrétisé. Autrement dit, là, on va commencer à voir des manifestations très concrètes, très visibles. Le Seigneur va utiliser des images très fortes pour venir parler de ce jugement-là qui attend les inconvertis, les païens et les faux croyants qui vont demeurer sur la terre après que les élus vont avoir été enlevés et que l'Église du Seigneur va avoir été complétée. On relit les versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Et il sortit de l'autel un autre ange, qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante et lui dit « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Alors, dans les versets précédents, on avait vu que le Seigneur avait procédé à la moisson, c'est-à-dire avait fait le rassemblement final des élus, que les pierres vivantes avaient été assemblées et que l'édifice divin construit par Jésus-Christ lui-même est maintenant avait été complété. Ceux qui restent sur la terre sont des incroyants de deux types. Premièrement, à ce moment-là, quand le Seigneur va enlever les véritables croyants, il va y avoir quand même une église qu'on pourrait dire apostate qui va être sur la terre à ce moment-là. Ça va être une église qui va avoir abandonné la plupart des enseignements des Écritures, qui vont être dans la désobéissance, qui vont être... Alors, ce sont en réalité de faux croyants, comme il y en a toujours eu à toutes les époques, dans toutes les églises locales, il y a toujours eu des gens qui professaient être des véritables croyants, mais que leur vie de tous les jours, leur marche chrétienne, démontrait avec une grande clarté, pour certains cas avec une grande clarté, qu'ils n'étaient pas des véritables croyants. Alors, ceux qui restent sur la terre, au moment où ces choses-là vont arriver, sont des croyants de deux types, la fausse église apostate et aussi tous les hommes qui ont rejeté Dieu. On peut dire que l'heure du jugement a arrivé et l'heure du jugement a sonné. C'est maintenant le temps de la vengeance. Alors, on va arrêter là pour cette semaine. Et on terminera cette leçon-là la semaine prochaine.